Léa,
Clément,
Maïli,
Martin,
Kauta,
Noan,
Joyce,
Imen,
Nil, Léonce,
Chad.
À la jeunesse,
les migrants,
Making Waves,
Sonneau Maujat, Avignon,
présente
à la jeunesse,
les migrants,
au Bacharatan, Mimirajan, Avignon.
Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que tout le monde se porte bien. Nous sommes en direct du Festival d'Avignon pour une cinquième émission de À la jeunesse, les micros. Ma parole est libre.
Klemti Hurra, c'est le titre de cette émission et c'est aussi le titre d'un poème d'Amin El-Rouzi, devenu un des hymnes de la révolution tunisienne.
Dans cette émission, nous allons parler des élèves et de leurs professeurs, des enfants et de leurs parents, de comment on nous élève et des lieux où on nous éduque. Nous allons parler désobéissance et soulèvement. Pour en discuter, nous recevrons tout à l'heure Fatia Kelouahachi, députée, et Émilie Rousset, metteuse en scène. Pour le moment, nous avons le plaisir d'accueillir Georges Didier Huberman. Bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle Nil Léonce et je suis accompagné de mes camarades Clément. Ça va, tu vas bien ?
Ça va et toi ?
Super. Kauta, bien réveillé ?
Oui.
Et Joyce, toujours d'attaque ?
Toujours.
Et à la réalisation, les précieuses Jade et Iman. Iman, on peut y aller ?
À la jeunesse, les micros !
En préparant l'émission, on s'est rendu compte qu'on a toutes et tous des souvenirs marquants de nos années de collège ou de lycée. Certains professeurs, censés parfaire notre éducation, nous ont traumatisés. D'autres nous ont aidés à grandir. En quelques mots, les amis, est-ce que vous pouvez nous raconter un souvenir d'école, des professeurs qui vous ont marqué, un souvenir d'injustice, un souvenir où vous avez désobéi ? Clément ?
Eh bien, écoute, Nil, moi, j'ai été marqué par mon prof d'allemand qui m'a suivi du collège au lycée. Et c'est celui qui m'a le plus encouragé. Et c'est le premier adulte à ne pas m'avoir abaissé et avec qui j'ai pu parler librement, contrairement à chez moi. On se voit toujours, d'ailleurs, pour faire des balades ensemble. Et lors de mes nombreuses hospitalisations liées à ma santé mentale, il est venu me voir à chaque fois.
Kautar ?
Moi, c'était un prof qui se croyait conseiller d'orientation. Un jour, il me demande ce que je veux faire après le bac. Et moi, innocente, je lui dis que mon rêve, c'est de faire les beaux-arts. Il rit, il me dit, mais tu veux faire quoi là-bas ? T'as envie de devenir SDF et vendre tes tableaux dans la rue ? Moi, ça m'a trop blessée parce que assumer ce choix de faire les beaux-arts, c'était déjà désobéir pour moi. Il m'a fallu beaucoup de courage pour lui parler de ça. Et après ça, j'ai commencé à douter de tout et de mes choix et de ma personne.
Et toi, Joyce, ton rapport au professeur ?
Moi, en première, j'ai eu une professeure de français qui s'appelle Madame Torchman. Pendant mon bac d'écrit de français, j'ai commencé à faire une crise d'angoisse. Je suis sortie de la salle et elle est venue alors qu'elle était censée surveiller une autre classe. Et elle m'a rassurée et m'a dit de le faire comme je le sens. Et aujourd'hui, je la remercie car j'ai eu mon bac de français. Et pour la première fois, j'ai eu confiance en moi.
Moi, ce qui m'est remonté en pensant à l'éducation, c'est un souvenir d'injustice. C'était en cinquième, je m'étais défendu après qu'un camarade m'ait agressé. La prof d'histoire m'a hurlé dessus. Elle pensait que j'étais responsable parce qu'elle est arrivée au moment où je me défendais. Sans même chercher à entendre mon point de vue, elle a pris la décision de m'exclure du cours. Je me suis senti humilié. Ce que je garde en mémoire, c'est ma gorge nouée de ne pas avoir été entendu. Aujourd'hui, je me rends compte que ce sentiment de colère vient du fait qu'un adulte puisse imposer son pouvoir d'autorité sans vraiment chercher à comprendre l'enfant. En nous écoutant, cher public, chères auditrices et auditeurs, des souvenirs d'enfance vous sont peut-être remontés. Des souvenirs où votre parole a été prise en compte. Des souvenirs de paroles qui vous sont restés dans la gorge. Des paroles d'adultes qui vous ont libérés. D'autres qui vous ont oppressés. Alors aujourd'hui, notre parole est libre. Et on la prend pour cette cinquième émission de À la jeunesse, les micros.
Making Waves Avignon présente
À la jeunesse, les micros.
Georges Didier Huberman, merci d'être avec nous.
Merci à vous. Merci.
Merci à vous. Vous, est-ce qu'un professeur vous a marqué ? C'est quoi votre rapport à l'école ? Est-ce que ça vous a construit ou plutôt abîmé ?
Alors, je pense qu'il faut jamais demander qu'est-ce que c'est le livre que tu aimerais emmener sur une île déserte ? Qu'est-ce que c'est le professeur ? Il faut toujours deux souvenirs. Pendant que vous parliez, je me disais, et moi, qu'est-ce que j'ai comme souvenir ? Donc, je vous en donne deux, d'accord ?
Très bien.
Parce qu'ils disent le contraire, et c'est ça qui est intéressant. Le premier, c'est j'avais un prof de grec ancien. Mon nom patronymique, c'est Didi. C'est un nom d'origine tunisienne. Et il m'appelait régulièrement Pipi, Zizi, etc. Et il me renvoyait toujours au fond de la classe. Premier souvenir. Deuxième souvenir, c'est mon prof de philo. À un âge où j'étais en deuil, très triste, il nous a amené un texte de Lacan. Et comme c'était totalement incompréhensible, c'était tellement incompréhensible que tout le monde a éclaté de rire. Et pendant des mois, il nous a élevés. Alors, tu parlais tout à l'heure de élève. Il nous a permis de nous élever. Il nous a pas élevés. Il nous a introduit dans le bonheur de découvrir qu'est-ce que c'est qu'une pensée. Et toute la classe a eu le bac. Moi, j'ai eu 20 en philo. Wow. Grâce à lui. C'est grâce à lui. Donc, l'instruction, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Il y a le pire et le meilleur.
Georges, vous êtes philosophe et historien de l'art et écrivain aussi. Et aussi curateur d'exposition, notamment de l'exposition Soulèvement, qui a eu lieu au Jeu de Pommes en 2016. C'est pourquoi nous vous invitons en ce 14 juillet, jour de commémoration pour les Français. Bienvenue à vous.
Merci.
Aujourd'hui, nous célébrons le soulèvement du peuple français et les premiers pas de la République. Vous avez dit dans une vidéo, le premier son d'un soulèvement, c'est un cri, puis c'est un mot, et ce mot, c'est non. Ce qui m'a fait penser aux enfants, justement, quand ils grandissent, et le premier mot qu'ils apprennent, c'est non. Et en grandissant, j'ai l'impression qu'on dit de moins en moins non. Est-ce que vous le sentez, vous ?
Non.
Mais du coup, pourquoi ?
Non, non, tout le monde dit non. Non, non, les enfants disent non. Simplement, il y a des bonnes façons et des mauvaises façons de dire quoi que ce soit. Mmh. Donc, il y a aussi des mauvaises façons de dire non. Je le crains, malheureusement. Mais bien sûr, non, c'est une parole de base. Maman, papa, non. Je suis d'accord. Est-ce c'est une façon de s'élever, justement, de dire non.
Est-ce que vous avez vous avez dit non et ça a été écouté ? Enfin, le moment où vous avez dit mon nom a eu un impact.
Non, parce que je parlais tout à l'heure de mon nom N-O-M, Didi. Oui. Maintenant, vous parlez de mon nom N-O-N. Alors, oui, j'ai dit non très souvent. C'est une longue histoire. Mais je peux vous dire simplement que j'ai dit non à beaucoup. Pour aller très vite, j'ai dit non à des possibilité de pouvoir qu'on me donnait qui m'aurait enlevé de la puissance et de la liberté. Voilà,
incroyable.
Ça c'est le plus important. Ouais. C'est que quand vous êtes jeune, on vous empêche de travailler parce qu'on vous donne aucun pouvoir. Mm. Quand vous êtes vieux, on vous empêche de travailler parce qu'on vous donne beaucoup de pouvoir. Donc il faut savoir, dire non au pouvoir. Mm. Ça c'est le plus important.
Et à part dire non au pouvoir, aujourd'hui, comment est-ce que vous vous révoltez ? Si c'est le cas, évidemment.
Alors, révolter, ça veut dire... vous savez, c'est un mouvement comme ça, la révolution. C'est pas seulement dire non, c'est dire non en retournant à autre chose. Par exemple, Rosa Luxembourg... en 1919, à Berlin, elle lance un mouvement révolutionnaire et elle l'appelle Spartacus. Ça veut dire qu'elle se révolte, mais elle revient à un souvenir de l'esclavage antique, de l'esclave qui s'est soulevé contre les Romains, ou tout simplement le fait que, puisqu'on est le 14 juillet, le bonnet phrygien, c'est un bonnet de la Grèce antique, et puis le modèle des révolutionnaires français, c'est la République romaine. C'est le mot république, hein, ça veut. Donc, se révolter, c'est aller au-delà de ce qui se passe aujourd'hui en désirant quelque chose de futur grâce à quelque chose de très ancien. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se révolter si on ne fait pas d'histoire. Il faut connaître son histoire. Les grands révolutionnaires sont des gens qui ont fait de l'histoire. Ben, Lénine ou, je ne sais pas, Marx ou qui vous voudrez. Ils ont tous, Trotsky, les anarchistes, tous, ils ont tous scruté l'histoire. Donc, ne pas croire que se révolter, c'est juste dire non au présent. Se révolter, c'est dire non au présent parce que quelque chose a été perdu de notre enfance, de notre passé, de quelque chose, et qu'on essaye de remettre d'actualité.
Ici, on revient un petit peu vers l'éducation. Comment on fait pour former un enfant à l'esprit critique sans lui enlever son insouciance?
Là, ta question, c'est drôle parce que tu te mets dans la peau de l'adulte. Tu te mets pas dans la peau de l'enfant en posant cette question, hein. Tu as des enfants déjà?
Non.
Non.
Heureusement.
Okay. Il faudrait peut-être poser la question du point de vue de l'enfant. C'est-à-dire, je dirais qu'un enfant se forme et il faut laisser se former un enfant. En tant qu'adulte, si on veut former un enfant, il faut se souvenir qu'on a été enfant. Il ne faut pas oublier l'enfant en soi-même. Mais je vais vous dire une chose très simple, moi. Parce que j'arrivais ici, je savais que vous alliez me poser des questions sur l'éducation. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Parce que, en fait, mon travail ne consiste pas quotidiennement. Je n'éduque personne. Je suis dans une bibliothèque ou dans une salle de musée pour faire une expo ou surtout devant ma table. Et donc, je suis seul, je n'ai personne à éduquer. Hein. Et puis, quand tu publies un livre, tu ne sais pas qui le lit, tu ne sais pas s'il est lu, tu sais rien. Tu n'éduques personne. Ce que je voudrais dire, parce que ça a été fondamental pour moi, moi j'ai beaucoup refusé l'autorité au sens mauvais du terme, parce qu'il y a un bon sens de l'autorité. Par exemple, être un auteur, je suis l'auteur de ce que je pense. Ça, c'est un bon sens de l'autorité. Mais l'autorité au sens du pouvoir sur autrui, ça, c'est une catastrophe. Donc, j'ai beaucoup refusé ça dans mes études, tout ça. Enfin, bon, ben, peu importe. En revanche, il y a quelque chose qui est fondamental pour moi. C'est de trouver là où tu admires quelqu'un. Et en fait, j'ai surtout appris, moi, en admirant quelqu'un. C'est-à-dire que, par exemple, pour le dire très précisément, j'ai quitté l'université pour faire du théâtre, d'ailleurs. Après, j'ai repris des études dans un endroit qui s'appelle l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, qui est là où j'enseigne encore, je suis devenu enseignant là, qui était un endroit totalement merveilleux parce que, qu'est-ce qui se passait? Tu entrais dans une salle et il y avait Roland Barthes, qui racontait comment il était en train de fabriquer son prochain livre. Et c'est tout. Rien de plus. C'est comme si tu entrais dans l'atelier d'un peintre, tu ne vas pas lui demander des recettes. Donc tu ne vas pas demander à Roland Barthes une bibliographie. Tu ne vas pas demander au prof d'être ta maman ou ton papa ou rien du tout. Tu es là, en silence, tu dis, oh là, comment il travaille? Bon, eh ben, j'ai toujours fait ça. J'ai fait ça en observant, par exemple, comment travaille Israël Galvan, qui est dans le Festival d'Avignon. Je suis resté 2 mois à le regarder en silence, travailler dans son studio, dans ses cours de, je sais pas comment on appelle ça, des masterclass. Et même, j'ai regardé des peintres sans rien leur demander. Donc, je pense que former quelqu'un, c'est d'abord lui dire ne te sens pas minable si tu admires quelqu'un d'autre.
Moi, Georges, je pense que j'aurais adoré vous avoir comme prof. Et je me demande si vous avez eu déjà des étudiants qui vous ont dit « Vous avez changé ma vie, vous m'avez marqué durant ma scolarité. »
Alors, on m'a dit des choses comme ça, mais je dirais que ce ne sont pas des étudiants qui m'ont dit ça, mais des lecteurs car pour le dire de façon abrupte, sans amertume, mais j'ai raté 3 fois l'habilitation à être professeur. Donc en fait, je n'ai jamais dirigé une thèse de ma vie. Donc ça veut dire que je n'ai pas de disciple, je ne suis pas un professeur au sens habituel du terme. Je me définis plutôt comme quelqu'un qui recherche, qui écrit. En plus, je fais des recherches sur des sujets qui apparaissent très très dissemblables les uns des autres. Donc les spécialistes se disent « mais de quoi tu es le spécialiste ?» Enfin, bon, bref. Donc je dirais que les gens qui ont pu me dire ça, on me l'a dit, c'était, je les appellerais des lectrices et des lecteurs, mais pas des étudiants, vraiment. Oui, l'électrice. Il suffit de... Ça rentre dans ce que je viens de vous dire sur l'admiration.
Georges Didier Oberman, tout à l'heure, vous parliez d'un texte de Lacan qui vous paraissait incompréhensible.
Oui.
Avec l'hommage que Joyce se prépare à nous dire, j'espère qu'il vous paraîtra compréhensible pour vous et pour nous.
Mais Joyce, c'est très incompréhensible aussi, hein, James Joyce.
À la jeunesse, les micros !
Les micros.
Quand je pense éducation, on pense parents, enfants, professeurs, école, études, rééducation peut-être. Moi, je pense potomitan. Potomitan est un terme de ma culture haïtienne. Un terme qui désigne le poteau au centre d'un temple vaudou. Mais dans le langage courant, c'est la femme qui soutient la famille, la mère. Quand je pense éducation, je pense à ma mère, à la mère de mon père et la mère de sa mère. Ce sont des femmes fortes de ma famille, les femmes fortes qui m'entourent. Ma mère qui a dû être une adulte avant même d'être une enfant, ma grand-mère qui a donné naissance à 6 fils, dont mon père qui est le premier, mon arrière-grand-mère que je n'ai jamais connue, mais d'après ma grand-mère, je lui ressemble. Je suis la mère de ma grand-mère. Je suis née en France, mais mon éducation s'est faite dans mes terres. Certes, grâce à l'école, mon imagination est immense car ils ont su réveiller la créativité en moi. Et je parle aussi anglais. Cependant, sur le plan sociétal, ce sont elles qui m'ont fait grandir. Ce sont elles qui m'ont donné confiance en moi, d'être sûre de mes pensées, opinions et de mes pensées. Ce sont elles qui m'ont appris à être une femme forte, indépendante et joviale comme elles. Papa, je ne te mets pas de côté parce que tu m'as appris à être calme et à communiquer en silence. Je vous promets, c'est difficile de communiquer en silence. Quand je pense éducation, je pense potomitan. Et j'espère être ce potomitan pour mes enfants. Un poteau sur lequel ils et elles pourront se reposer.
Pour Joyce, ce sont les femmes de sa famille qui ont été au centre de sa vie. De son apprentissage. Vous, Georges, quel a été votre potomitan à vous, votre pilier ?
Moi, j'ai eu une mère et un père, très, très dissemblables. Donc, j'étais au mi-temps de 2 poteaux. Ah. Très dissemblables. Et ça m'a beaucoup formé. C'est pour ça que j'ai ajouté le nom de ma mère au nom de mon père. Donc, j'ai un nom tout à fait dissymétrique, hein. Mais j'aime beaucoup, Joyce, que tu as dit que tu es la mère de ta grand-mère. Je sens ça très fortement. C'est-à-dire que ça entre dans un peu cette espèce de réflexion que j'essaye de faire sur le temps, sur l'histoire, sur ce que j'appelle les survivants et tout ça. Et que, donc... Moi, personnellement, j'ai vu le spectacle d'Israël Galvan et de Mohamed El Khatib, qui sont des spectacles sur l'autorité paternelle, extrêmement toxique, très négative, patriarcale. Personnellement, moi, j'ai eu un père tout à fait différent, un père complètement dans les nuages, donc j'ai pas eu ce problème-là. Mais je dirais que la révolte contre le père... Qui est souvent nécessaire, la révolte contre les pères ou contre l'ordre patriarcal, très souvent, il utilise la mémoire des grands-parents. Les grands-parents sont les alliés de ceux qui ont quelque chose à contester à leurs parents. Et ça, c'est très bien, ça.
D'ailleurs, Georges, votre père était peintre et vous êtes historien de l'art. Et en ce moment même, vous faites des notes avec des dessins.
Des gribouilles.
C'est des signes aussi, c'est des images. Et je voulais savoir comment cette transmission s'est-elle passée de l'image, votre père qui faisait principalement de la peinture. Est-ce que ça vous a influencé dans votre choix de carrière?
Ah oui, totalement. Alors, pour le dire très vite, j'ai pensé être peintre à un moment donné. C'est-à-dire, j'ai dit, je vais arrêter l'école. ça a jeté un froid. Bon, j'ai gardé l'école. J'ai gardé l'écriture, qui était plutôt le versant maternel. Ma mère était très proche de la poésie et tout ça. Comme je disais tout à l'heure à propos de Barthes, tout simplement, quand j'étais petit, je regardais mon père travailler. C'est-à-dire, je regardais quelqu'un qui s'approchait d'une toile, qui mettait quelque chose dessus, qui se reculait, qui s'approchait, qui se reculait, qui s'approchait. Et j'ai constamment le sentiment de faire la même chose quand je fais de la philosophie. Il faut s'approcher d'un concept, se reculer, s'approcher d'une opinion, se reculer, s'approcher pour être ému, se détacher de l'émotion pour pas être aliéné par son émotion. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la dialectique, en fait. C'est ça, le dialogue. Donc, je dirais que l'atelier de mon père m'a enseigné des choses absolument fondamentales. Donc là encore, c'est juste de regarder quelqu'un bouger, travailler, et pas lui demander la leçon, aucune leçon. Il ne faut jamais demander à quelqu'un les résultats de ce qu'il pense. Oui. Il faut lui demander comment tu penses.
Une question d'observation ?
Oui, surtout une question de refus de conclure. On ne conclut pas. Moi, j'ai vu comment tu as lu, là, tout à l'heure. Je t'ai regardé au travail. voilà. Tu as composé ton texte, et puis tu l'as lu, et puis tu as convoqué tes souvenirs, etc. Et ben, voilà. Tu m'as pas donné de réponse à des grandes questions. Voilà. Mais tu m'as offert un mot, là, potomitan. Et je te remercie.
Parce que c'est en fait, potomitan, quand j'étais petite, j'étais pas assez, proche de ma culture, je trouve, et c'est que dernièrement que j'ai cette envie d'aller, parce qu'en Haïti, politiquement, ça va pas, aussi les civils et plein de choses qui se passent là-bas, et je me sens très éloignée, et en même temps, c'est cet éloignement qui me donne envie de me rapprocher. Et potomitan, moi, j'écris beaucoup, depuis déjà 4 ans, j'essaye d'écrire des choses que j'ai envie de dire, des messages. Et c'est pour ça que je suis aussi passionnée dans le théâtre, parce que justement on peut partager avec le monde. Enfin moi en tout cas c'est là que j'ai envie de partager. Et potomitan, c'est un texte que j'ai envie d'écrire pour rendre hommage à ma mère surtout, mais à ma famille. Donc en fait j'ai envie de dire ce que je viens de dire, c'est un extrait, mais ça va continuer après.
D'accord. Mais comme tu viens de dire partager, je suis rassurée, parce que tu n'as pas dit « je vais me définir mon identité, je vais m'enfermer dans mon identité, dans mon histoire, dans ma culture, et puis je vais pas m'intéresser aux autres ». Non, tu viens de dire partager, donc c'est ça qui compte.
Avant de nous quitter, Georges Duhab-Barman, j'aimerais que tous les deux, on s'imagine comme si on était dans une relation père-fils. Admettons.
Mais qui est le père là dans cette histoire?
Vous êtes le père, évidemment.
Pourquoi?
Je suis trop jeune pour être votre père, voyons. Admettons que j'ai 6 ans et que c'est mon premier jour de classe en CP, admettons. Avant de partir à l'école, est-ce que vous avez des conseils à me donner?
Non.
Je vais attendre. Mon sac à dos.
Je vais attendre que tu reviennes de l'école. Que tu me dises, il y a un copain qui m'a dit t'es nul.
Ça arrivait souvent, ça.
Alors là, je vais lui dire quelque chose. Je vais lui dire, tu sais bien que t'es pas nul. Et puis, surtout, ne lui réponds pas, c'est toi qui es nul, par exemple. Je vais. Voilà.
Tu l'ignores, hein.
Ouais. C'est très compliqué. il y a une dimension dans la vie sociale qu'on appelle l'éthique. L'éthique. Je ne dis pas la morale, je dis l'éthique. C'est ce qu'il y a de plus difficile à transmettre à un enfant. Parce que l'enfant, même dans la cour de récré, même dans la classe, il est confronté à de la violence et à du pouvoir. Que ce soit le pouvoir des maîtres ou de l'organisation de l'école ou quoi, mais aussi des copains, des soi-disant copains. Enfin, voilà, c'est super violent, l'école. Mmh. Donc, non, des conseils. Simplement essayer de réagir à des cas très précis qu'ils me diraient.
Eh bien, merci pour votre parole, Jordi Dieu-Barman.
Ben, merci.
Je garde en tête vos conseils à donner après être rentré de l'école. Et je retiens surtout votre sincérité pour notre génération et c'est l'avenir. Merci d'être venu sur ce plateau.
Merci à vous. Merci de votre hospitalité.
On vous laisse partir. Dans quelques instants, nous allons recevoir Fatia Kelouahachi, députée, et Émilie Rousset, metteuse en scène. Mais avant, nous accueillons Johan Dumas, saxophoniste et compositeur. On vous écoute.
Thank you. Merci beaucoup, Yann Dumas. C'était vraiment très fort. Vous venez de nous jouer un morceau qui s'appelle Cheval et qui fait partie d'une pièce plus globale au nom de Amélia Tabéi. Et je pense pouvoir dire sans crainte que vous nous avez fait voyager et surtout vous m'avez fait voyager. Je pense que le terme transcender le saxophone, c'est le bon mot, le mot juste que je pourrais utiliser. Et maintenant, en revenant un peu sur la thématique de l'éducation, donc la thématique d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander, est-ce que la musique, pour vous, a la place qu'elle mérite au sein de l'éducation, au collège, au lycée ?
J'ai envie de dire que non.
Il n'y a pas assez de musique
Je pense qu'il n'y en a pas assez, ça c'est sûr. Enfin, il n'y a pas assez de musique, et c'est surtout le comment aussi, où elle est amenée. Même les écoles de conservatoire et tout ça, moi je les critique souvent énormément, parce que c'est très formaté.
Une manière un peu traditionnelle, peut-être.
Formation professionnelle.
Ouais.
Et à l'école, en fait, c'est un peu l'embryon de ça, quoi. Mmh. On va faire de la flûte à bec et en fait, personne n'a envie de faire ça. En fait, enfin, du coup, ça manque de peps, quoi, de donner envie, quoi. Et ça demande de l'accès, quoi, d'avoir accès à des instruments, enfin tout ça, voilà.
Et sincèrement, j'entendrai ce genre de morceau, ça me donnera envie de faire la musique du saxophone, plus particulièrement.
Trop bien.
Et j'avais une autre petite dernière question. Est-ce que vous, ou maintenant ou plus tard, vous donnez des cours en atelier ou même en école ?
Eh ben, j'ai donné des cours, mais d'art plastique plutôt, enfin des ateliers, ouais. Et pas trop en musique encore. J'avoue que j'aimerais bien, mais je trouve pas la forme. Je trouve que c'est dur en fait de donner quelque chose de généreux et ça me paraît important en fait. Le point le plus important, je trouve, enfin surtout avec des enfants par exemple, c'est même avec des adultes, c'est donner envie en fait. Et du coup, enfin pour moi, c'est important qu'il y ait quelque chose qui soit palpable et qui nous permette de nous dire ah ouais, en fait là on a quelque chose, on a réussi à faire quelque chose. Du coup, enfin une consécration de soi-même en fait.
Bah, trompé, mais je pense que ça peut convaincre beaucoup de gens. De faire la musique en vous écoutant jouer.
Oui, ouais, tant mieux.
Merci encore pour ce
jeu. Avec plaisir. Merci à vous.
À la jeunesse, les micros.
Nous sommes toujours au Cloître Saint-Louis et vous écoutez à la jeunesse, les micros. Avec moi sur le plateau, mes camarades Léa, Maëlie et Martin. Vous allez bien ?
Ça va.
Oula.
Je me porte à merveille. Et nos invités, Fatia Kelouahashi et Émilie Rousset.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Pour commencer, et avant qu'on discute ensemble, je vous propose qu'on écoute la chronique de Jade.
L'école, vaste sujet. Sujet complexe, mais important. Un lieu angoissant pour certains, libérateur pour d'autres. Pour moi, l'école était comme une prison. Un bâtiment en béton qui m'enfermait dans une case. Une case qui ne me correspondait pas. Je ne rentrais pas dans le moule imposé par notre société. Un moule rigide et froid, où ma créativité était mise de côté, où ma personnalité était étouffée, où je n'avais pas ma place. Aussi loin que je me souvienne, l'école était un stress quotidien pour moi. En maternelle déjà, j'appréhendais chaque journée, puis en primaire, au collège, au lycée. Le même calvaire, la gorge serrée, la boule au ventre, le cerveau embué, ne pas être écouté, être rabaissé. Je pense à tous ces enfants qui, comme moi, ne se sentent pas dans leur élément. À vous, les jeunes rêveurs, les artistes, les timides et les trop bruyants. À vous, les indociles, les révolutionnaires et les grandes gueules. Vous êtes des êtres uniques avec vos propres valeurs. Et elles ne sont pas moins belles que les autres. Portez-les fièrement.
We don't need no education. We don't need no thought control. Dark sarcasm in the classroom. Teacher leaves them kids alone.
Hey!
Teacher leaves them kids alone.
Merci Jade pour ta chronique et merci au Pink Floyd. Fatia Kelouahashi, vous êtes députée de la 8e circonscription de la Seine-Saint-Denis depuis 2022. Vous présidez la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Vous avez dirigé la commission d'enquête sur les violences dans les établissements scolaires, appelée la commission Bétaram en 2025. Avant votre engagement politique, vous avez été enseignante de lettres modernes pendant presque 30 ans. Merci à vous d'être avec nous.
Merci à vous et tout est juste.
Ne pas être écouté, être rabaissé. Nombreux sont celles et ceux qui ressentent comme Jade se sent à l'école ou s'est sentie. Très franchement, pourquoi les enfants ne se sentent-ils toujours pas écoutés, Fatia ?
Je crois qu'il y a une raison, c'est que l'école est très normative. Il faut être dans les normes pour pouvoir vivre et s'épanouir à l'école. Et donc, être dans les normes en France, c'est aussi obéir. Pourquoi ? On a une éducation qui est totalement verticale. On a un enseignant qui va enseigner à 30 élèves, et les 30 élèves doivent obéir. Et aussi, tout notre système éducatif est un système éducatif basé là-dessus, sur l'obéissance. Et donc, quand on a 3, 4, 5 enfants par classe qui ne sont pas dans les normes, c'est-à-dire qui ne comprennent pas les consignes, qui ne comprennent pas l'intérêt de ce qu'on fait à l'école, qui sont là, mais qui posent des questions qui sont dérangeantes pour l'enseignant, eh bien, tous ces enfants se sentent mal à l'école. Et c'est une réalité qu'on vit encore aujourd'hui, hein, complètement. Il y a beaucoup d'enfants, par exemple, les enfants précoces, mais aussi les enfants qui ont des troubles de l'attention. Et aujourd'hui, vous savez qu'on est dans l'école de la confiance, c'est-à-dire que normalement, les élèves en situation de handicap devraient être intégrés dans l'école. Donc, on a une série aussi d'enfants qui ont des troubles autistiques. Tous ces enfants ne sont pas adaptés. Alors, moi, je dis souvent que c'est l'école qui n'est pas adaptée à eux. C'est tout le contraire. Or, nous, on rêve tous d'une école qui intègre tous les enfants. Une école qui accepte les enfants comme ils sont. Et pour cette école-là, il faudrait déjà avoir moins d'élèves par classe. C'est un de nos combats, moi en tout cas en tant que socialiste, c'est le maximum. En France, en fait, on est dans le pays de l'OCDE, donc de toute l'Europe, où il y a le plus d'élèves par classe. Et la moyenne en Europe, c'est 19 élèves. Et nous, on en est loin, et donc c'est ce qu'on demande. Je pense que quand il y aura moins d'élèves, l'enseignant aura moins la pression d'enseigner à tout le monde de la même façon.
Et est-ce qu'il ne faut pas plus de professeurs aussi pour gérer tous ces enfants ? Enfin, à quoi pourquoi est-ce qu'il y a autant d'enfants dans les classes ?
Parce que l'éducation nationale, c'est le plus gros budget de l'État. Et dans le budget, 90% du budget, c'est le fonctionnement, c'est-à-dire d'embaucher des profs. Donc ça coûte cher. Et en réalité, souvent, on fait des économies. Depuis 2017, on a perdu 7000 enseignants. Ça veut dire qu'il y a moins d'enseignants qu'avant 2017. Et donc, automatiquement, on remplit les classes de plus en plus, avec de plus en plus d'élèves. Et puis, il y a aussi un gros problème, c'est l'attractivité du métier. C'est-à-dire que les Français ne veulent plus devenir prof. C'est plus attirant. Et la réalité, alors, il y a un problème de salaire, mais pas que. Il y a un problème de salaire, mais pas que. Ce que disent les enseignants, c'est aussi les conditions d'enseignement qui sont difficiles. Et aujourd'hui, là, depuis le mois de fin juin, début juillet, il y a eu moins 1700 personnes qui n'ont pas passé le concours. C'est-à-dire qu'il reste 1700 postes disponibles et avec un manque de personnes qui ont passé le concours pour être prof.
Bonjour Émilie Rousset. Vous Bonjour. Êtes dramaturge, metteuse en scène et directrice du Centre Dramatique National d'Orléans. C'est très impressionnant, je voudrais dire. Et vous mettez en scène Affaires familiales au Festival d'Avignon. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. J'ai une petite question, ça s'est passé comment pour vous, l'école ? Et est-ce que vous avez un souvenir marquant, que ce soit positif ou négatif, durant vos années scolaires ?
Alors, j'ai eu le temps de réfléchir parce que j'ai entendu que vous posiez la question, donc merci de me la poser. J'ai un souvenir d'école de théâtre, puisque j'ai fait plusieurs écoles de théâtre après le bac. Et la toute première école que j'ai faite s'appelait la Seine-sur-Saône à Lyon. Un souvenir marquant, c'est qu'en fait, donc on avait de façon un peu classique des stages avec des intervenants, comédiens, comédiennes, metteuses en scène, metteurs en scène. Et on travaillait sur des textes, sur des scènes, sur des projets. Et il y avait des ouvertures publiques. Mais contrairement à beaucoup d'autres écoles où quand il y a des ouvertures publiques, en général, on montre ce qu'on a fait avec les enseignants, cette école-là faisait des ouvertures publiques, mais ils nous disaient « vous faites ce que vous voulez ». Et on était très jeunes. Enfin, moi, j'avais 18, 19 ans. Et j'ai adoré ça parce que vraiment, ils nous disaient « mais du coup, qu'est-ce que vous voulez faire ? Quel artiste vous avez envie d'être là, maintenant ?» Donc moi, je me rappelle avoir fait une performance dans un réfrigérateur avec des têtes de cochon et des textes de Brigitte Fontaine, par exemple. Donc c'est une expérience d'école sans enseignant, mon plus beau souvenir, je crois.
Et j'ai une autre petite question. Je me suis un peu renseigné. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, 30% des enfants reprennent leur métier de leurs parents. Et moi, je me demandais, est-ce que vous faites partie de ces 30%?
Non, non, non. Mon père était professeur en BTS force de vente et ma maman était secrétaire dans l'éducation nationale. Donc, le service public peut-être quand même.
Vous avez découvert le théâtre par vous-même, par vos propres moyens, entre guillemets, si je
peux dire. La première personne qui m'a fait découvrir le théâtre, assez tôt, j'ai voulu faire du théâtre et c'était un stage de théâtre, c'était un atelier de théâtre. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'était cette professeure m'a beaucoup marqué, elle s'appelait Solange. Et en fait, j'étais très jeune aussi, j'avais 12-13 ans et elle nous faisait jouer des textes de Victor Hanke, de Victor Hugo, de Fassbinder, des textes en fait que je ne comprenais pas. Mais j'ai adoré ne pas comprendre et sentir qu'il y avait des horizons là-dedans.
Merci beaucoup.
On parlait au début de cette émission de l'importance du 14 juillet. Et personnellement, je trouve que historiquement, c'est incroyable. C'est un jour où le peuple a juste décidé que c'était assez, qu'ils n'en pouvaient plus. Mais aujourd'hui, je trouve que ça m'évoque surtout des feux d'artifice qui sont le plus souvent, en tout cas ici à Avignon, je vais à Avignon, annulés à cause d'alertes incendies. Ou alors juste des défilés de l'armée qui sont surtout politiques ou qui copient beaucoup le 4 juillet aux États-Unis. Et je trouve ça dommage que ce jour soit pas dédié à des manifestations ou juste à dire ce qui va pas dans notre pays, au lieu de juste célébrer nos lauriers passés, parce que ça commence à faire longtemps le 14 juillet, enfin en tout cas la révolution quoi. Est-ce que cette fête, elle participerait pas à mettre de côté nos problématiques nationales, Fatia?
Vous savez, avant de faire l'émission, je me suis dit, qu'est-ce qui me qualifie? Et moi, je suis quelqu'un, j'ai 54 ans, je suis une éternelle révoltée. C'est-à-dire, j'ai gardé mon âme d'enfant. Je suis comme à 12 ans, 13 ans, 14 ans au collège. C'est-à-dire que les injustices me font d'abord énormément de mal, mais c'est aussi ce qui me fait réveiller tous les matins. En me disant, voilà, j'ai envie de changer le monde. Et à mon âge, alors que j'ai été quand même fonctionnaire de l'éducation nationale, 30 ans, ça aurait pu me calmer, mais non. Et je pense que ce qu'il faut se rappeler aujourd'hui, c'est qu'on fête la révolution, en fait la révolte des Français, d'un peuple. Un peuple qui se soulève contre, justement, les privilèges. Aujourd'hui, en France, on est quand même... Et on parlait d'école, et franchement, il y a un lien. On est formaté. C'est-à-dire, on nous demande de respecter les institutions. Alors, c'est bien de les respecter, mais il faut comprendre pourquoi on les respecte. Et si on ne comprend plus pourquoi on les respecte, à ce moment-là, il faut se révolter. Moi, je suis comme ça, j'ai gardé cette âme de révolte. Et donc, pour moi, le 14 juillet, c'est le soulèvement des Français.
Oui, mais aujourd'hui, on voit bien, personnellement, je n'ai jamais vraiment ressenti ça le 14 juillet. Je sais ce que ça veut dire parce qu'on l'a étudié en cours. Et je respecte ça, je trouve ça... voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas vraiment aujourd'hui? C'est notre fête nationale et on ne parle pas de cette révolte. Je suis d'accord avec vous sur le symbole, mais je trouve que ça perd de son sens aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça que je le vois dans notre société aujourd'hui.
Et aujourd'hui, le 14 juillet, c'est juste un jour pour faire la fête.
Bah, pas pour moi. Moi, je crois que le 14 juillet, il faut s'en rappeler. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je tairai le nom de la ville. Il y a des villes en France qui ne fêtent pas le 14 juillet, oui. Qui ne font pas de feux d'artifice. Ce sont des villes qui ont été royalistes très longtemps et qui ont gardé un esprit de royauté. Il faut se souvenir de ça. En fait, c'est une belle fête. C'est une fête où le peuple a gagné son pouvoir de liberté. Avant, c'était des rois en France. Il fallait avoir le sang bleu pour pouvoir avoir le pouvoir. Moi, aujourd'hui, je suis une jeune femme de Seine-Saint-Denis qui a été prof de lettres en collège public et qui a une partie de ce pouvoir. Et à l'Assemblée nationale, je défends les intérêts de la Seine-Saint-Denis et les intérêts des précaires en France. Vous voyez ? Donc, c'est important, c'est une grande fête.
Et vous en pensez quoi, vous, Amélie ?
Du 14 juillet, oui. En vrai, ça rejoint ce que tu dis. J'ai peu d'avis sur la question, mais je sais pas. Je réfléchissais. J'aime bien le côté gore de notre hymne national.
Je suis bien d'accord.
On va maintenant prendre le temps d'écouter un témoignage, celui de Noah.
Donc, je m'appelle Noah Dumenza. J'ai 19 ans. Ça fait 2 années de suite que je fais à la jeunesse les micros. Donc, pour les auditeurs de l'année dernière, vous me connaissez déjà. Aujourd'hui, je vais raconter un peu mon histoire. Donc, sur les sujets, oui, des violences à l'école et ce qui peut s'en suivre à la maison. J'ai pas grandi dans un cadre familial très sain. C'est-à-dire que mes parents ont divorcé alors que j'avais à peine 6 ans. Et mon père était quelqu'un d'extrêmement violent envers moi et mon frère. Donc quand il est parti et que ma mère s'est retrouvée toute seule comme une pauvre femme à élever ses deux enfants, eh bien j'ai dû prendre le seul exemple du seul homme que j'avais jamais côtoyé dans ma vie, qui était mon père. Donc je me suis mis moi aussi à être violent à l'école, à taper mes camarades et tout ça pour affirmer une espèce de domination. Je me complaisais un peu dans la violence, ce qui n'est pas du tout la bonne chose à faire parce qu'en fait c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que dans ma famille, c'est un membre de la famille, une addiction. Voilà, donc on a tous notre truc. Dans la plupart, c'est la drogue. Moi, c'était la nourriture. À défaut de me droguer, je mangeais énormément. Le budget des courses était explosif. Donc je mangeais. Naturellement, je grossissais. Et en plus, les gamins entre eux, à cet âge-là, bon, voilà. Quand t'es un gamin et que tu fais boudiner, que tes vêtements te serrent et tout ça, en général, entre eux, ils sont pas tendres. Donc ça a accentué en plus cette violence que j'avais, c'est-à-dire que quand les gens se moquaient de moi, bah, je les tapais encore plus. Sauf que vu que je les tapais encore plus, j'étais encore plus seul. Et comme j'étais encore plus seul, bah, j'étais encore plus déprimé. Donc je mangeais plus, et puis voilà, etc. La roue tourne. On avance comme ça, les années avancent comme ça, jusqu'à peu près au collège où mon frère, Léo, a un accident de voiture, s'est fait rentrer dedans par une voiture, et où il est resté dans le coma pendant plus de 6 mois. Voilà. Et puis là, bah mon frère, en fait, c'était comme moi, mais différemment. C'est-à-dire que lui, il était violent, mais il se faisait surtout violence à lui, ce que je comprenais pas trop. Et quand ça s'est arrivé, bah, j'ai remis beaucoup de choses en question dans ma vie et tout ça, du haut de mes 15 ans. Je me suis dit que c'était peut-être un peu ma faute si j'étais tout seul aujourd'hui. Donc, lentement mais sûrement, j'ai essayé d'arrêter d'être violent, d'être agressif avec les gens qui m'entourent. J'ai été un gros égoïste à l'époque, que ce soit avec mes proches ou avec les gens au collège, à l'école et tout ça. Ça, pareil, j'ai essayé de le travailler, d'arrêter d'être égoïste et tout ça. Si je peux dire quelque chose aujourd'hui, c'est que la violence ne résout rien. En général, les gens qui se servent de la violence pour appuyer leurs propos, c'est des gens vides qui, en réalité, ne savent pas comment appuyer leurs propos autrement que d'affirmer une domination corporelle qui est juste inutile, quoi. Après, moi, je pense quand même l'avoir un peu compris trop tard et je regrette ce que j'ai fait à certaines personnes. Pour vous dire, ça allait tellement loin que j'étais tellement peu sociable au collège que des fois, je tapais des gens juste parce qu'ils s'asseyaient sur le même banc que moi. C'est pas très malin, hein, mais bon, j'en parle parce que j'assume aujourd'hui. Mais c'est pas très malin, il faut pas le faire. La violence, ça résout rien. Dans ma famille, la violence, c'est malheureusement une coutume que j'essaye de briser un peu. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ne soyez pas violent avec, parce que ça n'arrangera rien.
À la jeunesse, les micros.
Fatia, c'est un sujet que vous avez beaucoup travaillé suite à la commission Betaram. Donc moi, j'ai une question. Comment ça se fait que l'école, qui est censée être un lieu pour nous protéger, abîme les enfants aujourd'hui?
Bon, je vais répondre à votre question, mais d'abord, je pense que je vais la prendre dans un angle qui moi, me rassure.
Pas de souci.
L'école, c'est le premier, pour moi, vecteur d'émancipation des jeunes. L'école peut abîmer. Je ne dis pas qu'elle est tout safe pour tout le monde. Mais par contre, les enfants en manque d'école, en mal d'école, il y en a beaucoup en France. Il y a les enfants, par exemple, du voyage. Il y a les primo-arrivants. Il y a les enfants hospitalisés. Et tous ces enfants, en réalité, ne rêvent que d'une chose, c'est d'aller à l'école. Donc déjà, l'école pour tous, l'école comme lieu d'émancipation, l'école comme lieu où on apprend aussi à réfléchir, à trouver sa place, à avoir un esprit critique, c'est cette école dont on rêve tous. Maintenant, l'école, elle est aussi vecteur de violence. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on vit avec des camarades toute une année. Et donc le harcèlement scolaire, aujourd'hui en plus il est amplifié par les réseaux sociaux, il a toujours existé, mais aujourd'hui il est amplifié, c'est-à-dire qu'aujourd'hui même la nuit, quand on se couche, on se fait harceler sur les réseaux sociaux. Et puis là, nous, notre commission Betaram, c'était l'école qui fait du mal aux enfants par les adultes de l'institution. Et là, c'est carrément très très grave. Pourquoi très grave ? Parce qu'en réalité, en France, on n'a pas bien compris les droits de l'enfant. D'abord, on ne les explique pas. Je pense que là, autour de la table, personne n'a eu des cours sur les droits de l'enfant. Et puis, la réalité aussi, c'est que dans les internats, la nuit, il y a des éducateurs, il y a toute la vie scolaire, c'est-à-dire les assistants d'éducation, etc., jour et nuit. Et donc, ces adultes ont du pouvoir sur des enfants qui sont en fragilité puisqu'ils sont loin de leur famille. Et donc, ce pouvoir, bien sûr, on en use et parfois on en abuse. Et là, je parlerai de tous les internats dans des écoles privées en France. 90% des écoles privées sont catholiques. Et dans les écoles aussi publiques, l'internat est un lieu de danger en réalité. Nous, ce qu'on a demandé avec cette commission d'enquête, c'est de contrôler ces établissements, qu'il y ait du contrôle. Et puis, je vais vous donner un chiffre qui va vous faire frémir. Hein. Ces 10 dernières années, il y a eu, je crois, 14 contrôles. Il y a 7000 établissements hein, en France. 7600 établissements. Il y a eu 14 contrôles. Dans les 14, il y en a eu 10 dans des établissements musulmans. Donc ça veut dire qu'il y a eu 4 contrôles dans les établissements catholiques, qui est l'établissement type privé, en 10 ans. Et donc on se demande pourquoi il y a de la violence. Mais il y a de la violence parce que personne contrôle, personne vérifie ce qui s'y passe, et qu'en fait ils sont en vase clos, donc il se passe des choses horribles, et personne n'est au courant, et les familles non plus souvent. Hein.
Mais quand on sait que, par exemple, pour l'école Bétaram, il y a eu énormément de silence dessus, malgré le fait que des gens étaient au courant, comment on peut casser le silence et libérer la parole pour que ces enfants puissent en parler?
Alors, en réalité, Bétaram n'est pas un cas particulier, parce que d'ailleurs, il y a des personnes qui ont appelé ça des clusters, comme pour le Covid. C'est-à-dire qu'il y a des lieux en France où le silence et une obligation, l'omerta. Mais ce n'est pas que dans l'école. C'est l'omerta du prêtre de la ville, c'est l'omerta des notables, donc du maire, du préfet. Tout le monde est au courant et personne ne parle. Et pourquoi il y a cette chape de plomb? Franchement, je n'arrive même pas à la comprendre. Moi, j'ai 2 enfants, je les ai élevés à savoir exactement ce qui se passait, à quelle heure, à quel moment à l'école. Je voulais tout savoir. Et alors peut-être que les parents savaient, ou peut-être que les parents n'avaient pas envie de voir. Dans ce genre d'établissement, si on parle de Bétaram, c'est un établissement prestigieux. Hein. Attention, c'est pas n'importe qui va à Bétaram. C'est des enfants de notables, donc de gens qui ont de l'argent, et ils appelaient ça une espèce de camp de redressement. C'est-à-dire que ton enfant, il faisait plus de bêtises en sortant de Bétaram, t'es sûr qu'il avait le bac, et qu'il était kiffé les droits. On ne pensait pas à la violence, on pensait que c'était une bonne école pour l'élite.
Émilie Rousset, dans votre spectacle Affaire familiale, on a bien vu que la justice avait beaucoup d'inégalités. Pourquoi la justice, elle n'arrive plus à protéger ou elle n'arrive pas à protéger tant que ça les enfants de leur famille?
Dans la pièce, en tout cas, ce que j'espère que raconte la pièce, c'est qu'il y a une responsabilité institutionnelle, mais pas que. C'est-à-dire que la charge de ça et la levée du déni sur les violences faites aux enfants, sur les violences sexuelles faites aux enfants, elle est collective. Et c'est la société entière en France qui doit se réveiller. C'est-à-dire que c'est pas que les institutions qui se taisent, c'est pas que les notables, c'est qu'il faut accepter de voir les chiffres en face. On sait que c'est 2 à 3 enfants par classe. Donc, les enseignants, il faut aussi qu'ils soient formés à pouvoir détecter, à pouvoir réagir. Il faut qu'ils sachent à qui ils puissent parler. Et il faut aussi qu'on écoute. C'est-à-dire qu'on sait aussi, il y a eu aussi la commission de la Civise qui a fait un travail remarquable. On sait qu'un enfant, il doit parler à 5 ou 6 adultes avant d'être aidé. C'est énorme. Donc, ces 5 et 6 adultes, c'est nous. C'est partout. C'est tout le temps et c'est collectivement qu'on doit se réveiller en France sur la question des violences faites aux enfants. La justice est défaillante parce que nous sommes défaillants.
Je suppose que vous utilisez cette pièce ou votre art en général pour réveiller les gens. Est-ce que vous pensez que l'art c'est aussi un moyen hyper utile justement pour faire ça, ou est-ce que je sais pas, il y a d'autres outils qui vous viennent en tête? Je sais pas si elle est très claire ma question.
Le rôle de l'art, il est immense, il est multiple. En tout cas, moi, ce que je crois avec cette pièce-là, et ce qu'on essaie de faire, moi, l'équipe artistique, c'est que on peut écouter les choses différemment au théâtre, percevoir les choses différemment, avoir un temps de perception, de réflexion, d'émotion qui est tout à fait différente que ce qu'on peut voir en politique, qui est important aussi, ce qu'on peut voir dans les journaux, ou ce qu'on peut avoir dans notre vie réelle. Donc, en tout cas, l'art a sa place pour pouvoir faire réfléchir collectivement. Ouais.
Ben, merci.
Moi, j'aurais une dernière question à vous poser à tous les deux, Émilie et Fatia. Au vu de tout ce qu'on vient de se dire, des violences au sein des familles, des violences au sein des écoles, je me demande sincèrement, est-ce qu'il reste encore la place pour de l'optimisme, de l'évolution dans les années futures ? Émilie, peut-être si vous voulez répondre.
Oui. En tout cas, par exemple, dans la pièce, toutes les personnes qu'on a rencontrées et qu'on a choisies et qui forment les rencontres qui forment le texte et le corpus de la pièce, c'est que des combattants et des combattantes, c'est que des personnes qui font bouger les lignes. Et moi, je trouve que c'est très empouvoirant de rencontrer des gens comme ça, qui mettent des mots, qui donnent des outils, qui font bouger les choses, qui s'engagent.
J'allais répondre exactement la même chose, donc bravo. Merci. Moi, je crois qu'il y a quand même aussi dans la vie des rencontres. Il faut croire à ces rencontres. Des enseignants. Moi, ce que j'appelle aujourd'hui des lanceurs d'alerte. Des enseignants qui pensent que ça peut pas fonctionner comme ça. Mais aussi, dans notre vie personnelle, moi, j'ai par exemple rencontré un professeur de théâtre quand j'étais au lycée, qui m'a montré d'autres horizons. Et je pense que souvent, quand on pense que notre horizon est bouché, eh bien, il y a quand même une petite lumière, il y a quelqu'un à un moment qui va nous tenir la main. Et ça, il faut y croire, il faut croire en son destin, il faut croire aussi en cette chance. Et c'est peut-être cette lueur d'espoir que je proposerai à chacun et chacune d'entre nous, parce que oui, la société est violente, oui, en effet.
Fatia Kelouahashi, Émilie Rousset, merci beaucoup pour ce riche échange.
Merci beaucoup à vous.
Merci.
Notre cinquième émission, Ma parole est libre, touche à sa fin. Merci à toutes et à tous. Je remercie encore nos invités, Georges Didier Oberman, qui a dû partir plus tôt, Fatia Kelouahashi, Émilie Rousset, d'avoir été avec nous. Le public et nos auditeurs qui nous écoutent à la radio, Jade pour sa chronique, Noah pour son témoignage et Johan Dumas pour sa musique.
À la jeunesse, les micros.
J'espère que quelque part, chez nos auditeurs, un futur professeur ou un professeur peut-être nous écoute et entendra les conseils qui ont été donnés par nos invités et nous-mêmes. Mesdames, messieurs, on se retrouve après-demain pour notre sixième émission « Un miroir brisé ». Nous aurons la chance de recevoir Elias Samba, historien, poète et essayiste palestinien, et Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT.
C'était Making Waves Avignon, à la jeunesse les micros.
Une série d'émissions enregistrées en public en juillet 2025
lors de la 79e édition du Festival d'Avignon.
Un projet
et une production de Making Waves.
Les micros.